Mimi, t'as acheté des piles pour le poste?
Zut de flûte, j'ai oublié. Oh, mais on va louper l'agité du local.
Le croisement des chemins, le lien malgré nos différences et particulièrement nos différences d'âge. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque dans cette émission, on sera à l'espace Saint-Julien à Laval. Bonjour Lucie, tu es avec moi encore aujourd'hui.
Bonjour.
Et donc hier, tu nous as présenté ce lieu tu nous feras découvrir aujourd'hui précisément le Nid, une micro-crèche intergénérationnelle. Et bon, je ne vous en dis pas plus puisqu'on y va dans quelques minutes. Et dans la suite de cette émission, comme tous les jeudis, c'est notre rendez-vous habituel, pensée locale. On va à Angers qui réaménage son réseau mobilité grâce à Radio Campus Angers. Allez, on commence l'agité du local, Lucie. On t'écoute pour ton point sur les actualités.
Eh bien, je vais commencer, chers auditeurs, par un point qui me semble être un point important pour les éleveurs et éleveuses parmi vous. Vous avez peut-être entendu parler de la MHE, ou maladie hémorragique épizootique, qui est apparue en France en septembre 2023. Rapidement, il s'agit d'une maladie virale non transmissible à l'homme qui se transmet aux ruminants sauvages et domestiques par des moucherons piqueurs porteurs du virus. Bon, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que 25 communes de notre département sont intégrées dans un périmètre de surveillance de cette fameuse MHE. À savoir que pour chaque commune citée, le périmètre de surveillance s'étale à 150 km alentour. L'idée pour la préfecture de ces zones dites régulées, et de renforcer la surveillance sanitaire avec les vétérinaires et d'encadrer les mouvements d'animaux. Bon, tout ça est très lourd d'informations, alors pour les auditeurs parmi vous que ça pourrait concerner, vous pouvez vous rendre sur le site de la préfecture de la Mayenne, mayenne.gouv.fr, et en tapant MHE dans la barre de recherche, vous trouverez immédiatement le communiqué de presse datant du 23 novembre qui vous donnera tous les détails dont vous aurez besoin, comme la liste précise des ruminants concernés, le détail des symptômes auxquels être attentif et la liste surtout des communes concernées par cette zone régulée.
Eh bien, tu commences par un sujet bien dense, Lucie. As-tu quelque chose d'autre à nous partager à propos de l'agriculture ou de la gestion des espaces naturels?
Oui, Margot, côté apiculture cette fois, une réunion est proposée à Évron suite à des observations de problèmes sanitaires sur le rucher de la commune. L'idée de cette réunion est de mieux comprendre les problèmes sanitaires liés à l'apiculture, d'alerter les apiculteurs sur le sujet et d'échanger sur les symptômes que chacun observe sur ses ruches, ainsi que les traitements possibles. Il s'agit aussi d'en profiter pour essayer collectivement d'identifier le problème plus précisément et d'adapter les pratiques. La réunion se tiendra jeudi 30 novembre à 20h dans la salle du trait d'union à Évron. Voilà, et puis pour conclure ce thème, hier, mercredi 22 novembre, l'Agence de l'eau et ses partenaires institutionnels ont signé des contrats territoriaux qui vont permettre de mener des actions en faveur de la qualité de l'eau en Mayenne. Il s'agissait dans ces contrats de formuler les actions prioritaires à mener pour les 3 prochaines années, et en particulier par rapport au milieu aquatique, aux pollutions diffuses, à l'érosion et au bocage. Selon Louis Michel, qui est président du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Mayenne, je cite « Améliorer la qualité des masses d'eau protège face aux pressions liées au dérèglement climatique et notamment les sécheresses ». Dans cette optique, l'Agence de l'eau financera les actions à hauteur de 6 millions d'euros, le département 2 millions d'euros, la région 1 million et 3 autres millions d'euros seront apportés par les collectivités locales, ce qui fait un total de 12 millions d'euros alloués à ces efforts.
Une petite coupure sport dans toutes ces informations?
Avec plaisir, samedi prochain, Arnaud Baligeon, qui a porté le maillot du Stade Lavallois de 2006 à 2013, va affronter son ancien club 10 ans après son départ. Il jouera en Ligue 2 pour l'équipe de Dunkerque, que nos tangos vont affronter ce samedi donc. Et puis toujours samedi, le club d'haltérophilie d'Evron va concourir en National 1. Les membres de l'équipe sont évidemment ravis d'accéder à ce niveau du championnat que le club n'avait pas vu depuis 17 ans. Ce sera samedi 25 novembre au complexe sportif des Grands Prés à 17h pour le championnat National 1, précédé à 12h30 du championnat régional par équipe des jeunes.
Merci Lucie, une conclusion rapide pour ces brèves d'actualité.
Eh bien la semaine prochaine, la Croix-Rouge organise une grande braderie solidaire à Laval. Ce sera du mardi 28 novembre au vendredi 1er décembre, de 14h à 17h30 dans sa vestiboutique au 90 rue Émile Brault à Laval donc. Ils aimeraient d'ailleurs, avec l'argent collecté, racheter des stocks et préparer les opérations de Noël à destination des familles défavorisées.
Hier, on a commencé la découverte de l'espace Saint-Julien à Laval et on continue aujourd'hui. C'est toi, Lucie, qui nous y emmène.
Et oui, aujourd'hui, on fait un zoom sur la microcrèche Le Nid. Elle s'est installée l'année dernière à l'espace Saint-Julien avec, comme pilier fondateur, le réseau Tom et Juliette. Ils ont d'ailleurs été complets quasi immédiatement à l'espace Saint-Julien et le sont encore à ce jour. Là-bas, la pédagogie est inspirée de la méthode Montessori avec... Pour nuance tout de même que c'est une inspiration et pas une application à la lettre qui, elle, demanderait beaucoup plus d'outils très spécifiques. Bref, c'est un endroit rempli de douceur qui accueille 12 enfants de 3 mois à 3 ans, avec pour seul prérequis que les parents soient en adéquation avec la pédagogie proposée. Enfin, je ne m'étale pas plus, Julie vous en parlera beaucoup mieux que moi, on l'écoute.
Moi, je m'appelle Julie, je suis la pilote de la microcrèche Tom et Josette à Laval. Je suis éducatrice de jeunes enfants et du coup, je travaille dans la structure depuis un an puisqu'elle est ouverte depuis fin août 2022. Et du coup, nous sommes 4 professionnels, donc 2 éducatrices de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture, une CAP petite enfance et on a la chance d'avoir une collègue qui est en apprentissage CAP AEPE également.
Et donc, pilote et pas directrice de la crèche.
En fait, l'idée de Tom et Josette, en construisant du coup des termes un petit peu propres à leur structure, c'était de vraiment déconstruire un petit peu toutes les strates qu'il y a dans les métiers de la petite enfance et de travailler sur une ère où on a tout un champ lexical autour de l'aviation. On navigue ensemble autour de ce projet incroyable de l'intergénérationnel. Les micro-crèches Tom et Josette sont ouvertes depuis 3 ans à peu près, la première crèche ayant été ouverte à Rennes. C'est un projet assez incroyable mené par des fondatrices juste géniales. Elles se sont rendues compte de l'intérêt de mélanger les plus petits avec les seniors. Donc aujourd'hui, on vit ça au quotidien et on se rend compte vraiment de l'énergie que ça peut porter. Si on parle à titre individuel, eh bien moi ça me porte puisque moi j'ai également du plaisir à créer du lien avec les seniors. Et c'est quelque chose qui donne du bien-être aussi au quotidien pour les équipes. Moi, en venant ici, je voyais bien le côté doux de l'échange entre enfants et seniors et l'intérêt pour ces deux publics. Et je me rends compte au bout d'un an que c'est aussi très doux pour les professionnels, qu'il y a de très belles relations qui se créent entre les seniors et mon équipe. Et les familles sont inscrites aussi dans tout ça, hein, parce que le projet Tom et Josette, c'est vraiment de faire intégrer aussi des familles qui veulent porter ce projet-là. Voilà, on voit de belles relations se créer aussi à l'extérieur, en fait, hein, où nous, on lâche prise sur ça et on a de la chance.
Donc ça ne s'arrête pas uniquement à la crèche, en fait, ça dépasse l'enceinte de l'espace. Vous accompagnez un petit peu les parents aussi au-delà de la crèche ?
C'est un sujet qui nous porte beaucoup et l'idée que les parents aient toute leur place à la crèche est importante. Moi, en tant que professionnelle, je peux échanger beaucoup avec les parents, mais quand ils voient et ils nous voient faire, je pense que c'est là où on arrive vraiment à gagner dans ce qu'on appelle le soutien à la parentalité. On peut, l'enfant s'exerce, est maladroit face à un autre enfant. Et nous, on ose intervenir, on ose se faire voir en tant que professionnelle. Et les parents nous regardent souvent avec un air un peu interloqué et on sent que ça suscite leur intérêt puisque de toute façon, ils connaissent mieux leur enfant que nous. Et même les seniors sont assez drôles, puisqu'ils connaissent bien les enfants et sont capables de transmettre aussi aux parents. Non, vous inquiétez pas, moi je l'ai vu l'autre jour à la médiation animale, il a tendu une carotte à un autre enfant, moi. Voilà, c'est assez anecdotique, mais c'est vraiment vertueux aussi de voir la posture de chacun autour de l'enfant qui grandit.
Ici, vous êtes dans l'entrée de la crèche, qui est du coup l'espace vraiment d'accueil pour les familles et les enfants. Et on invite avec plaisir les parents à s'installer dans la salle pour prendre les premières ambiances de la journée avec leurs enfants. Et le soir, pour prendre le temps de les observer en train de jouer, de les retrouver progressivement.
Notre projet pédagogique, il est vraiment orienté sur la rencontre de l'autre et la rencontre de soi. Je pense que c'est assez important. Et du coup, je pense que c'est le meilleur axe à mettre en valeur sur notre projet. Dans cette idée-là, on a des parents qui nous rapportent vraiment l'idée que les enfants sont du coup des enfants très ouverts et assez accueillants. Et moi, sur mon expérience de crèche, je m'aperçois de ça. On est dans un environnement à petit effectif, hein, ils sont seulement 12, on n'est pas dans un grand effectif de crèche. Et du coup, on se rend compte vraiment que c'est vertueux, hein, ce sont des enfants accueillants et vraiment disponibles pour la rencontre de l'autre. Et les interactions, elles sont tellement multiples et variées que chaque enfant va y trouver son intérêt. On se rend compte de certains enfants qui vont aller chercher le service, j'ai besoin de l'adulte pour construire ma tour, par exemple, et des enfants qui vont aller chercher le lien d'affection. On a un petit garçon qui, dès qu'il y a les mamies, j'allais dire, qui va tout de suite aller se coller et vraiment se nicher au plus près de leur cœur. Et c'est rigolo de voir que c'est vraiment de son élan premier à lui, quoi.
Excepté cette ouverture dont vous me parlez, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous observez que ça apporte aux enfants et peut-être aux seniors aussi ?
Je parlerai de la joie. L'enfant, il est joyeux par nature et on se rend compte que dans notre quotidien chronométré, on ne prend pas toujours le temps de s'extasier de choses très simples de la vie. Et quand on fait une balade dans le parc, on se rend compte que là, on prend le temps. Et moi, j'ai vraiment la sensation que le temps des seniors et des enfants est le même. Donc, si moi, j'ose faire un pas de côté sur mon organisation de professionnelle, je peux permettre ça. Donc, cette notion de joie, de temps et d'émerveillement, elle fait vraiment partie de notre quotidien, quoi. Et elle enrichit les professionnels. Il y a un planning tout simplement affiché avec du coup une proposition et en fait chacun est libre de venir ou de pas venir. Ce qui donne des temps très riches et très forts puisqu'il n'y a pas d'obligation justement dans cette donnée-là. Et c'est cette liberté je pense qui donne beaucoup d'intérêt. Au logis, la résidence est à effectif complet et on se rend compte que certains seniors ne viennent pas. Par contre, il y a des seniors qui viennent et qui tiennent bien à leur place. Et par rapport à moi, mes interrogations de me dire est-ce que je réponds aux besoins des seniors aussi, on m'a beaucoup fait le retour de seniors qui ont leurs appartements qui donnent les fenêtres sur la cour de la crèche. Il y a des rassemblements dans ces appartements de seniors qui viennent écouter en fait les sons de la crèche. Donc il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qui sont pas perceptibles qui, au fil du temps, on se rend compte que voilà, on a des seniors qui vont toujours aller faire leurs courses sur le moment où nous on est dehors, par exemple. Donc vous voyez, ça c'est un temps qui n'est pas quantifiable mais qui est présent.
Une petite mallette, je la ferme et je la donne. Hop.
Non, c'est pas ça que tu veux.
On ouvre. Oui. Encore. Allez.
L'idée vraiment, et moi les parents sont assez demandeurs, ce serait de pouvoir créer des temps intergénérationnels où les parents sont là. Donc ça fait vraiment partie des projets 2024 pour la structure. Proposer voilà, un temps de partage et de jeu où je vous parlais de la notion de temps où chacun est sur le rythme des enfants. Donc voilà, l'idée ce serait vraiment d'ouvrir la structure encore plus aux parents. Mais aujourd'hui ce qu'on fait est bien et du coup je pense qu'un pas après l'autre on pourra se lancer dans d'autres projets mais on veut prendre le temps. Et dans les temps forts, on prépare avec l'équipe une journée pédagogique quand même. Nous sommes formés, nous, au développement de l'enfant, mais trop peu au développement des seniors. Alors, on y découvre beaucoup de similitudes dans les besoins et les envies. Mais on a envie de travailler avec une collègue psychologue qui nous prépare une chouette formation. Quelles sont les similitudes entre les âges et qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour le bien-être de tous ?
Du coup, les échanges avec les seniors et les enfants, est-ce qu'il peut y avoir des réticences au début de la part des seniors ou de la part des enfants, des peurs
Ce qu'on a observé, nous, c'est qu'on a pris le temps à l'ouverture de la crèche de créer notre nid, les enfants et les professionnels, et on n'a pas fait des temps intergénérationnels, planifiés dès le début. On a attendu un mois, voire deux, j'ai plus vraiment la notion du temps. Mais on a pris ce temps-là. On a pris le temps aussi d'observer quel était notre groupe d'enfants. Et puis, on a des petits critères. On connaît les tempéraments des enfants, donc on connaît leur façon de s'opposer. Il n'y a pas besoin d'hurler pour s'opposer à quelque chose. Des fois, un mouvement en recul peut montrer qu'ils n'ont pas envie. Mais sincèrement, en une année, on n'a jamais eu d'enfants réticents à aller. Moi, je pense à un petit garçon qui, ce matin, nous a entendu nous organiser en équipe et qui a dit « Papi, mamie !» Voilà, c'était sa façon de lui dire « Vous ne m'oubliez pas, je fais partie du groupe qui part. » Et après, on a les seniors qui viennent comme ils le souhaitent à la crèche. On fait toujours attention à leur installation, parce qu'on est quand même dans un monde d'enfants, qui est près du sol. On voit, je pense à un résident qui m'a fait peur un jour en s'asseyant sur le petit canapé à hauteur d'enfant et qui m'a dit en se relevant, « Julie, attention, je fais de la gym douce. Normalement, je dois savoir me relever. Ça fait partie de mes défis lors de l'atelier gym douce. » Donc, vous voyez, en portant toute la confiance, il s'est relevé. Je vous assure que j'étais rassurée une fois qu'il était debout. Mais on apporte toujours une chaise, cette notion d'accueil. Mais presque aujourd'hui, les enfants vont aller chercher la chaise, si on leur permet, et vont aider le seigneur à s'installer, quoi. Donc on voit des liens assez magiques. La chaise et le seigneur qui est assis sur la chaise, c'est aussi un bateau sur l'eau tout de suite engagé, vous voyez. Et du coup, ça passe aussi dans tout ce qu'on met à disposition pour que tout le monde soit bien.
Les seigneurs n'ont pas forcément toujours les codes pour être auprès des enfants.
Comment ça se passe en tant que professionnelle pour les encadrer ?
J'ai pas la sensation d'encadrer les seniors, en fait. Les seniors sont dans un lien assez magique. Il y a une dame, une fois, qui m'avait dit « Mais moi, là, j'ai pas de... » Alors, c'était pas une notion d'affect, c'était une notion de « Voilà, je suis libre de la relation. » Nous, on a pu, au début de la crèche, un peu renseigner et échanger et partager sur l'éducation d'aujourd'hui. Donc, on a pu échanger sur les seniors, sur les mots et la valeur des mots auprès des enfants, sur les postures aussi. Hein. Je me souviens d'un résident qui avait voulu asseoir un bébé en disant « Elle va mieux voir un si, mais c'était une enfant trop jeune pour tenir en position assise, vous voyez. » Donc on est toujours garant du bien-être des enfants et de mettre des mots. Mais ça, c'était vraiment au début. Aujourd'hui, ce que les seniors disent, c'est oh, « ils sont choyés, ils sont aimés, et nous, on n'a pas eu tout ça étant plus jeunes. » Et ils ont vraiment ce regard de la qualité du travail des professionnels. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'ils viennent observer. Ils ne s'exercent pas auprès des enfants. On reste vraiment, nous, garantes de l'accompagnement de l'enfant. Et ils sont vraiment dans le jeu, en fait. Donc, et les enfants n'ont pas cette demande-là auprès d'eux non plus, de qu'ils soient encadrés par les seniors.
Dis-moi, grand-maman, comment ça fait d'être aussi grand ?
Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de mettre en mots tout ce qu'on vit. Alors, auprès des enfants, c'est vraiment ça, hein. Mettre en mots auprès des enfants leurs interactions, leurs maladresses, et les guider vers ce qui est bon pour eux et ce qui leur fait du bien. Et mettre en mots auprès des seniors aussi, ces choses-là, et retransmettre aux parents le soir. J'ai la chance de pouvoir observer et vivre dans ce bouillon toute la journée. Donc retransmettre, après partager avec vous, par exemple, aujourd'hui, pour moi, c'est une valeur importante. Moi, je parlais de joie, mais pour moi, c'est important qu'on se recentre en tant que professionnel de la petite enfance sur cette joie qu'ont les enfants, qui est inhérente à eux. Et nous, des fois, en tant qu'adultes, on est obligé d'aller la chercher. C'est quand même dommage. Donc voilà, prendre ce temps qu'il nous offre et mettre en mots les choses. Ouais.
Dans quelques instants, on écoute notre reportage Pensée locale de la semaine réalisé par Martin Collat de Radio Campus Angers. Avant, je vous propose d'écouter Passion Fruit, une reprise de Drake par Prudence.
Listen, seeing you go ritualistic, planting my soul of addiction for now, cause we're falling apart, yeah. Tension between us just like picket fences, you got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart, yeah. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my own ways, I can't blame you, no, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, from a distance. I think we should rule our commitment for now, cause we're falling apart, yeah. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now, they keep falling apart, yeah. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't.
8 janvier 2021, Angers réaménage son espace public et transforme son réseau de mobilité. La ville assiste à la mise en service de nouvelles lignes de tramway qui changent les habitudes quotidiennes des Angevins. Aux heures de pointe, il devient difficile de se frayer un chemin dans les différents wagons. Martin Collat de Radio Campus Angers est allé à la rencontre des habitants du quartier Belle-Beille à Angers.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Bon, c'est le deuxième tramway qui passe, et cette fois-ci, je ne peux pas le louper. C'est la première fois que je prends la ligne C depuis son inauguration au mois de juillet. Direction, le quartier de Belle-Beille à Angers. Les portes se ferment, je valide mon ticket, et pour le moment, il reste de la place pour s'asseoir. Allez, c'est parti.
Prochain arrêt, Belle-Beille, campus.
De l'autre côté de la Maine, Gilles Toublan, le président de l'association des habitants de Belle-Beille, nous attend pour parler de l'arrivée du tram dans le quartier. Un tram qu'il a déjà l'habitude de prendre.
Là, vous allez me toucher sur les sentiments. Le dernier parcours que j'ai fait en tram, c'est la ligne Belle-Beille, effectivement, mon plaisir. Là, c'est génial, le château, la cathédrale.
Il aura fallu attendre 6 ans de travaux pour que le tram arpente les rails et réponde aux besoins du quartier de Belle-Beille.
Le plus, il est gagné surtout au niveau des étudiants. Parce que, disons, le milieu étudiant était complètement dépourvu d'un raccordement sur Angers, surtout pour les cours, et puis l'après-cours, le soir et autres. Donc là, je crois que c'est un atout très important. Bon, effectivement, il y a des retombées également sur Belle-Beille, parce que les gens de Belle-Beille se déplacent, soit centre-ville, soit à l'ailleurs, soit aller à la gare, ou ainsi de suite. Donc c'est quand même très positif.
Les nouvelles lignes du tram sont déjà ancrées dans le quotidien des habitants du quartier et facilitent les déplacements.
Avant, j'avais un vélo de la ville d'Angers. Pour moi, le tram, c'est plus pratique.
Non, c'est l'idéal pour aller se promener en ville, pas besoin de la voiture.
Le tram, c'est plus agréable, plus confortable et un peu plus rapide.
Quels effets va avoir le tram sur le long terme ? Le quartier de Belle-Beille connaît déjà une disparition de ses commerces. Et si la ligne de tramway semble faciliter les déplacements et favoriser les mobilités douces, la crainte de la disparition des commerces s'endurcit.
Moi, je fais partie d'une vieille génération où, disons, on était très attaché à son commerce, à son boulanger. Aujourd'hui, malheureusement, les commerces, il n'y en a plus beaucoup. L'avenue Patton devient désertique au niveau des commerces.
Pour Xavier, de la pizzeria du centre commercial Bossier, c'est aux commerçants de faire le nécessaire pour leur activité.
Je pense que quand même, il y a moyen de travailler sur le centre. Il y a quand même du monde. Après, charge à nous de faire venir les gens, en fait. Tout simplement, charge à nous, commerçants, de faire venir les gens. Donc on a un beau centre commercial. On a un bel endroit maintenant, comparé à ce qu'on avait avant. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de travailler dans ces conditions-là, quoi. Après, maintenant, encore une fois, à nous de faire le boulot pour que les gens viennent et restent.
Et pour rester et faire vivre le quartier de Belle-Beille, le mieux est d'y loger. Si le quartier compte plus de 10 000 habitants aujourd'hui, l'arrivée du tram y change petit à petit la sociologie. Gilles Toublan.
C'est une réalité. Aujourd'hui, dès l'instant qu'un quartier est attractif, pour différentes raisons, les gens viennent. Et il est inévitable que, compte tenu des coûts de loyer et des coûts d'acquisition, il y a une sélection qui se fait par l'eau. Belle-Beille, que j'ai connue au niveau sociologie, bon, il y avait quand même une certaine, je dirais, pauvreté de la population compte tenu de la réhabilitation du nouveau Belle-Beille, de Belle-Beille. Et donc là, il y a un rajeunissement du bâti avec une nouvelle population. À l'époque, il y a eu jusqu'à 36% de logements sociaux et qui seraient descendus à 26%, sachant que le seuil qui est dans les villes, il faudrait souvent attendre minimum 20%.
Belle-Beille est en pleine évolution. La carte de l'INSEE montre qu'à certains endroits du quartier, plus de 45% des ménages sont pauvres. La proximité du campus universitaire favorise la mixité sociale. Toujours selon l'INSEE, en 2020, 20% des entrants dans le quartier étaient des jeunes de 19 à 26 ans ou des couples sans enfants. Mais la flambée du prix du logement, la volonté de la première ministre Elisabeth Borne de ne plus attribuer de logements sociaux dans les quartiers prioritaires aux demandeurs les plus précaires, laisse en suspens les problématiques de logement des habitants les plus défavorisés du quartier.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Martin Collat pour Radio Campus Angers.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Un dernier moment musical ensemble avant la fin de cette émission. Lucie, qu'est-ce qu'on écoute ?
Eh bien, je vous emmène avec moi à Londres avec l'ensemble Portico Quartet pour un peu de jazz entre très gros guillemets moderne, savamment mélangé avec de l'ambiance. Bref, ils sont assez difficiles à définir, à vrai dire, tant ils explorent. Quand je les ai découverts, ce qui avait retenu mon attention au-delà de leur délicatesse, c'est leur utilisation du hang, qui est une percussion moderne que vous pourrez reconnaître dès les premières notes du morceau. D'ailleurs, ils doivent une grande partie de leur renommée à leur album Knee Deep in the North Sea, qui est sorti en 2007, et dont est extrait le morceau qu'on va écouter. C'est parti pour Pompidou de Portico Quartet.
Et on est arrivé à la fin de cette émission. Votre soirée commence à 19h sur l'autre radio.
Ce sera avec la sagesse de Tug. Moins de Greg, plus de Romain. Bref, il nous interroge. Est-ce que vouloir la paix, c'est vouloir la justice ?
Et on continue à 21h.
Avec All Blues, qui vous parle de la route 61 ou route 61. Pour ceux qui préfèrent, la fameuse route du blues.
On se retrouve donc demain à 12h15 dans l'agité du local pour le dernier jour de la semaine. On passe 30 minutes ensemble et on parle de ce qu'il se passe en Mayenne. En attendant, faites attention à vous et puis bien sûr, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, l'hiver, c'est fini.